Il est 7h. C'est le week-end, vous êtes là pour vous reposer, profiter de cette belle journée ensoleillée. Bon réveil à tous.
Radio Chablais, suivez-nous, on vous suit.
Et pour le journal de ce matin, c'est Martine Wüstiner qu'on écoute. Bonjour Martine.
Bonjour Philippe. Un comité référendaire s'oppose à la hausse de la taxe sur l'électricité à Aigle. Elle devrait passer de 0,6 à 1 centime le kilowattheure sur tout le territoire communal. Fraîchement constitué, le comité s'est présenté hier face à la presse et a exposé ses arguments. Selon eux, cette taxe est contre-productive et n'arrive pas au bon moment. Marcel Jacques Bacca, membre du comité référendaire et conseiller municipal de l'Entente Aiglonne.
L'énergie électrique, elle est une majorité renouvelable, donc on va décourager les gens à passer à cette énergie.
Il faudrait taxer une autre énergie ?
Elles sont déjà assez taxées, disons. Le problème, c'est que pour la commune, elle ne peut pas intervenir sur les autres énergies. Là, elle intervient sur l'énergie sur laquelle elle peut prélever une petite marge, mais toutes les autres énergies vont augmenter, tout va augmenter, ce n'est pas le moment. Et puis, on a déjà des réserves, on a déjà de l'argent. Les comptes de la commune ont été bons. Il faudra voir quel projet on veut réaliser, puis à quel prix. Donc, c'est le moment d'attendre.
Rappelons que cette hausse a été acceptée en juin par le conseil municipal d'Aigle et a pour but d'alimenter le fonds environnement et développement durable. Le peuple pourrait se prononcer en fin d'année. Un sujet réalisé par Guillaume Abbey. L'abbé de Saint-Maurice, Jean Scarcella, a été élu à la tête des congrégations de Saint-Augustin. Il a été mandaté officiellement jeudi soir par les 130 délégués de la Confédération religieuse venue du monde entier et réunis en congrès dans la cité agonoise. Pour les 6 prochaines années, Jean Scarcella portera le titre d'abbé primat. Il remplace Monseigneur Jean-Michel Girard, prévôt du Grand Saint-Bernard. IceWatcher, l'application mobile de l'Office cantonal d'archéologie, a été lancée il y a tout juste une année. L'objectif de cet outil était de permettre aux randonneurs et alpinistes de signaler les vestiges du passé recrachés par les glaciers. Entre des projectiles militaires, des morceaux de cuir et de textile, ainsi que des objets en bois, une dizaine de trouvailles ont été signalées par ce biais. L'application a été téléchargée par plusieurs centaines de personnes et elle n'a pas été utilisée que par des Valaisans. Romain Andenmaten, spécialiste en archéologie glaciaire à l'Office cantonal d'archéologie.
La majeure partie des annonces qui ont été faites sur l'application venaient de personnes hors canton, ce qui est aussi quelque chose qui est pour nous est intéressant parce que ça montre que les gens sont sensibilisés, pas que chez nous, à cette problématique, et que les gens qui font de l'alpinisme en Valais, mais qui viennent de l'extérieur, sont aussi sensibilisés à cette problématique. Et puis, on est en discussion et en réflexion, pas pour cette année, mais pour l'année prochaine, pour que cette application puisse être ouverte à d'autres régions. Dire que quand on est en haute altitude, il n'y a pas de frontières. Les frontières, on va dire, politiques n'existent pas sur les glaciers, et que ce soit entre les cantons ou même entre les pays. Et puis effectivement, l'idée c'est que ce produit ou cette application puisse servir à plus large échelle.
En cas de découverte, le premier réflexe à avoir est de ne rien toucher. Il faut ensuite suivre les instructions données par l'application IceWatcher, un sujet préparé par nos collègues de Rhône FM. Après les fortes chaleurs de ces jours passés, les orages d'hier soir ont apporté de grandes quantités d'eau en peu de temps sur une grande partie du plateau. Châteaudet a été parmi les plus arrosés. Il est tombé 60,5 mm d'eau en 3 heures dans la station du Pays d'en Haut. Des régions comme celle de Berne, Bâle ou Zurich ont pour leur part eu droit à des grêlons parfois de grande taille. Et sur le lac de Zug, une mini-tornade a été observée. Le Covid-19 a tué 9305 personnes en Suisse en 2020, lors de la première année de la pandémie. 96% d'entre elles souffraient d'au moins une autre maladie simultanément, sans qu'elle soit la cause du décès selon l'Office fédéral de la statistique. Les autres aspects importants de cette étude avec Frédéric Nejad Toulamy.
Un problème cardiaque ou pulmonaire a été la principale maladie non mortelle qui accompagnait une infection au coronavirus, souligne l'OFS. Par ailleurs, un quart des personnes décédées souffraient de démence, 13,5% de diabète sucré et 9,7% d'une tumeur cancéreuse. Plus des deux tiers des victimes ont succombé à la maladie durant la deuxième vague de la pandémie en novembre et décembre. Les chiffres de l'OFS divergent de ceux publiés par l'Office fédéral de la santé publique car leurs bases de données sont différentes. L'OFSP se base sur les annonces des cabinets médicaux, l'OFS sur les données des offices d'état civil.
C'était les précisions de notre correspondant à Berne, Frédéric Nejad Toulamy. L'Ukraine a accusé hier les Russes de frappe près d'un réacteur nucléaire de la centrale de Zaporijjia, sous occupation russe depuis le début de la guerre. Une ligne de haute tension a été endommagée dans cette attaque en déclenchant l'arrêt d'un des réacteurs de la plus grande centrale de l'Europe. Lors de la prise de la centrale début mars, l'armée russe avait ouvert le feu sur des bâtiments du site, suscitant déjà le risque d'un accident nucléaire majeur. Et Antonio Guterres a lancé un vibrant appel aux dirigeants du monde pour qu'ils retirent les armes nucléaires de leurs arsenaux. Dans son discours lors d'une cérémonie annuelle organisée dans la ville japonaise d'Hiroshima en hommage aux victimes du bombardement de 1945, le secrétaire général de l'ONU a mis en garde sur les risques pour l'humanité de revivre des drames comme celui d'il y a 77 ans à Hiroshima. Et en football, le FC Monthey entame ce week-end sa deuxième saison en Première Ligue. Dans un championnat qui s'est agrandi et qui accueille désormais 16 équipes, les Chablaisiens voudront faire encore mieux que l'an dernier. Néo-promu, la formation bavalaisane avait réussi à se classer 6e. Cette fois, c'est donc le top 5 qui est en ligne de mire. Mais au-delà de cette position, les Monthaisans veulent surtout s'inscrire dans la durée en Première Ligue. Sans brûler les étapes, les explications de l'entraîneur du FC Monthey, Cédric Stram.
On va pas viser déjà le haut du tableau comme ça. Non, je pense qu'il faut nous faire un bon départ. Avec les trois premiers matchs peuvent lancer aussi une saison. Donc on va mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration sur ces premiers matchs. On en a deux à l'extérieur, un à domicile. Donc on va faire le maximum pour être le plus compétitif possible. Ce sont des équipes qu'on connaît un peu, mais il y a passablement de changements aussi. Il y a des nouvelles équipes qui sont arrivées avec deux équipes supplémentaires en Première Ligue. Donc il y a une part d'inconnu aussi, mais ça fait partie de la Première Ligue tout simplement. Donc on va prendre match après match et faire le maximum pour déjà bien commencer dimanche à la Sarah.
Cédric Stram au micro de Julien Traxel. Le premier match de la saison du FC Monthey est prévu demain à 16h sur la pelouse du FC La Sarah et Clépan. Et toujours en football, Neuchâtel-Xamax est déjà sous pression après la quatrième journée de Challenge League. Les Rouges et Noirs ont perdu 3-2 chez eux contre Yverdon et n'ont toujours pas le moindre point à leur actif. Xamax n'a pas tenu la distance après avoir mené 2-1 dans ce derby du lac de Neuchâtel. Meilleure équipe dans le jeu, Yverdon s'est en effet montré plus entreprenant et plus cohérent dans ses actions. Yverdon reste ainsi leader avec 10 points. Et en VTT, Camille Balanche ne remportera pas la Coupe du Monde de Downhill. La Neuchâteloise a chuté jeudi à l'entraînement avant la manche de Mont-Sainte-Anne au Canada. Et le verdict est sans appel pour la leader du classement général. Elle souffre d'une fracture de la clavicule. Alors qu'il reste 2 courses à disputer cette saison en descente, les chances de titre de la Suissesse se sont donc envolées.
Merci beaucoup Martine, on vous retrouve tout à l'heure à 8h.